Bonjour à toutes et à tous, il est 12h30 sur France Culture. Et tout de suite, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Maëlys Besserie, bonjour à tous. En Afghanistan, à l'approche d'une présidentielle contestée par les talibans, les attentats se multiplient. Nouvelle attaque ce matin à Kaboul, elle a fait au moins 95 blessés. Précision de notre correspondante Sonia Ghezali au début de ce journal. En Inde, il y a eu un mort au Jammu et Cachemire, un homme qui a bravé l'interdiction de manifester des autorités indiennes. Alors qu'en parallèle, à New Delhi, un recours a été déposé devant la Cour suprême pour contester la révocation de l'autonomie de cette région. Nous ferons le point avec Sébastien. Nous irons également à Eskilstuna, à l'ouest de Stockholm. La ville vient d'introduire un permis obligatoire pour les mendiants. Décision qui fait polémique. Sébastien Faux s'est rendu sur place. Pourquoi Universal, le fleuron français du groupe Vivendi, vend 10% de son capital au chinois Tencent? Analyse à suivre d'Annabelle Grelier. Et puis comment le Sénat compte lutter contre l'insécurité des maires deux jours après le drame de Signes dans le Var qui donne lieu aujourd'hui même à une information judiciaire pour homicide involontaire? Les parlementaires font des propositions. Au sommaire de la grande table d'été, Maëlys Besserie.
Nous allons parler de l'océan à l'occasion de l'exposition du Muséum National d'Histoire Naturelle avant de faire le portrait du réalisateur Damien Manivelle.
Merci Maëlys Besserie, à tout à l'heure, 12h45. Mais d'abord, avant de développer les titres, arrêtons-nous sur ce rapport de l'Institut des Ressources Mondiales, un groupe de réflexion spécialisé dans les questions d'environnement et installé aux États-Unis. Selon ses experts, un quart de la population mondiale est en situation de pénurie hydrique grave. Le rapport a été rendu public hier. Bonjour Maxime Fayolle.
Bonjour.
Dans 17 pays du monde, le jour zéro, celui où plus une goutte d'eau ne sortira du robinet, eh bien selon ce rapport, ce jour est proche.
Et c'est ce qu'on appelle le stress hydrique quand la demande en eau dépasse les ressources disponibles. Le World Resource Institute, qui est à l'origine de l'étude, pointe donc 17 pays où cette pénurie est extrêmement élevée. La plupart de ces pays se trouvent au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Le Qatar est en tête de ce classement, où l'on retrouve aussi l'Inde. Au total, vous l'avez dit, un quart de la population mondiale. Alors quels sont les raison de ce manque d'eau, ce n'est pas uniquement dû à la sécheresse et au réchauffement climatique, bien que le phénomène ne va rien arranger, c'est principalement la hausse des prélèvements en eau à cause de l'augmentation démographique, de l'urbanisation, du développement économique aussi, avec deux secteurs, l'agriculture et l'industrie, qui consomment énormément d'eau. L'étude explique qu'il faut donc accélérer sur le traitement des eaux usées. 82% ne sont pas réutilisées dans ces 17 pays pointés par l'étude.
Et la France pourrait également être en danger selon ce rapport.
Et oui, car l'Institut insiste, le problème de l'eau est intrinsèquement local et même si la France ne se classe que 59e au rang des pays où le stress hydrique est le plus fort, il faut toutefois faire attention. Une région est particulièrement touchée, ce sont les Hauts-de-France avec un stress hydrique extrêmement élevé localement. Idem pour une bande qui va de la Bretagne à la Champagne mais aussi en Loire-Atlantique ou dans le Sud-Ouest. Les conséquences au long terme peuvent être très graves avec des pertes économiques entre 6 et 14% du PIB d'ici 2050.
Merci Maxime Fayolle pour vos précisions. En Afghanistan, Kaboul est en alerte ce midi. Alerte à la voiture piégée. Un attentat a fait une centaine de blessés ce matin. Attaque d'ores et déjà revendiquée par les talibans. Le mouvement islamiste s'oppose à la tenue de l'élection présidentielle prévue à la rentrée. Sonia Ghezali, vous nous appelez de Kaboul.
C'est un camion bourré d'explosifs qui a visé le commissariat du 6e arrondissement de la capitale afghane, selon des sources sécuritaires. Elles indiquent que la plupart des victimes sont des passants et des commerçants du quartier de Polesorta, situé dans le sud-ouest de Kaboul. Plusieurs femmes et enfants figurent parmi les victimes, a fait savoir le ministère de la Santé. Il était 9h, heure locale, quand l'explosion a retenti. Un épais nuage de fumée s'élevant dans le ciel au-dessus de ce quartier populaire très animé de Kaboul à l'heure de pointe. Ma maison s'est mise à trembler, mes enfants sont effrayés, ils n'arrêtent pas de pleurer, raconte un Kabouli qui vit à quelques mètres du poste de police pris pour cible. C'est horrible, ne cesse de répéter cet homme effondré, joint par téléphone. Un autre qui se trouvait dans la rue à quelques pas du commissariat confie avoir entendu un bruit assourdissant avant de se retourner vers sa maison et de la découvrir couverte de cendres, les fenêtres arrachées, des débris de verre recouvrant le sol. Mes parents sont sains et saufs, je ne sais pas comment cela est possible, dit-il. Il n'y aura jamais de paix dans notre notre pays, lâche désespéré un autre résident du quartier. Les talibans ont revendiqué l'attentat. Ils participent pourtant au pourparlers de paix à Doha au Qatar avec les Américains. Chaque parti annonçait il y a quelques jours à peine, lors du 8e round de discussion, avoir réalisé de nombreux progrès vers la paix. Sur le terrain, le conflit continue de faire de nombreuses victimes. 1500 civils ont été tués ou blessés en juillet dernier, selon les Nations Unies, qui ont indiqué qu'il s'agissait du mois le plus meurtrier depuis ces deux dernières années.
La correspondance à Kaboul de Sonia Ghezali. Dans la partie indienne du Cachemire, la région dont l'autonomie a été révoquée par New Delhi en début de semaine, une manifestation a tourné au drame. Un homme est mort après avoir été pourchassé par la police. Les faits se sont produits à Srinagar, la grande ville du Jammu et Cachemire où les habitants tentent de braver les interdictions de se rassembler. Tandis qu'à New Delhi, les nationalistes hindous tirent profit politique du décret présidentiel approuvé par le Parlement en début de semaine, même si Sébastien Farcy, de nombreux juristes commencent à contester sa légalité.
L'abrogation de l'article 370 qui garantissait l'autonomie du Cachemire était l'une des plus anciennes promesses du parti nationaliste hindou, du BJP, mais aussi l'une des plus compliquées à réaliser, autant à cause des difficultés légales que de l'opposition farouche des Cachemiriens à un tel rattachement à New Delhi. Malgré cela, le Premier ministre Narendra Modi est passé en force. Il s'appuie pour cela sur sa grande popularité, renforcée après sa réélection mai dernier, et bénéficie aussi d'une opposition décimée et divisée. Pour son parti, et au-delà pour énormément d'Indiens qui sont attachés au Cachemire, Narendra Modi est maintenant considéré comme un héros qui assoit pour toujours la souveraineté de l'Inde sur cette région rebelle. Mais pour beaucoup de juristes, l'utilisation d'un décret présidentiel pour changer le mode de gouvernement d'un État fédéré est une aberration. Le gouvernement n'a même pas daigné consulter les autorités du Cachemire et bafoue ainsi le principe fondamental du droit à l'autodétermination d'une population. Un recours vient déjà d'être déposé devant la Cour suprême pour annuler cette réforme et on peut s'attendre à une longue et cruciale bataille législative pendant les années à venir.
Sébastien Farcy, le correspondant de RFI pour France Culture à New Delhi. En Italie, près de Matera, au sud du pays, c'est une migrante du Niger qui a perdu la vie. Elle a été tuée dans l'incendie d'un entrepôt qui servait d'abri de fortune à plusieurs centaines d'ouvriers agricoles. En Suède, c'est une décision qui fait polémique dans la petite ville d'Eskilstuna, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Stockholm. La mairie vient d'introduire un permis obligatoire pour les personnes qui veulent mendier, un permis qui coûte 23 euros. 8 permis auraient déjà été demandés, mais aucun n'a encore été distribué par la police chargée de trier les demandes. C'est un reportage de notre correspondant Frédéric Faux.
On ne parle que roumain, de Bucarest. Nos papiers, on les a. Le permis pour demander de l'argent aussi, oui, oui. Vous voulez nous acheter des myrtilles ? C'est 3 euros.
Ces deux femmes qui tendent la main devant un supermarché d'Eskilstuna ont déjà rodé leur discours en cas d'un éventuel contrôle. Elles affirment avoir leur permis de mendier, bien qu'aucun n'ait encore été distribué. Et elles vendent quelques baies cueillies dans la forêt pour montrer qu'elles ont une autre activité. Ce permis ne concernerait que 30 à 50 personnes, essentiellement des femmes roumaines, exploitées, qui mendient pour leur chef. Pour ceux qui le contestent, il s'agit d'une atteinte à la liberté et à la générosité de chacun. Pour le maire social-démocrate Jimmy Jansson, l'enjeu est d'abord d'identifier les gens en détresse et de lancer un débat.
Les gens doivent avoir la possibilité de mendier quand ils ont besoin d'aide. Mais les gens qui mendient à Eskilstuna ne sont pas suédois, ils n'ont pas le droit à nos aides sociales. Donc on arrive à une situation où ils se retrouvent sans ressources, bloqués dans notre système. Ils restent ici et demandent de l'argent. Ils ne peuvent pas s'en sortir. Si vous voulez vaincre cette pauvreté, vous devez faire des choses qui mettent ces gens dans la bonne direction. C'est pourquoi nous faisons ça.
Depuis décembre dernier, et une décision de la Cour suprême administrative, plusieurs communes suédoises ont décidé d'interdire la mendicité dans leurs rues. Mais Eskilstuna est la première à introduire ce permis payant. S'ils ne peuvent le présenter, les contrevenants pourront se voir demander de quitter le centre-ville. Et s'ils refusent, ils seront verbalisés.
Le reportage à Eskilstuna de Frédéric Faux. Alors que Samsung s'apprête à sortir son nouveau téléphone portable à écran pliable, l'inquiétude pointe en Corée du Sud, conséquence de la guerre commerciale qui se joue avec le Japon sur fond de querelles historiques. L'industrie high-tech sud-coréenne dépend en effet en grande partie de fournisseurs japonais. Or, la semaine dernière, Tokyo a sorti la Corée du Sud de sa liste blanche de partenaires de confiance, décision qui s'est ajoutée à des restrictions d'exportation de produits chimiques essentiels à la fabrication des smartphones. C'était en juillet dernier. Louis Palidjano, les dirigeants économiques à Séoul tentent donc de s'organiser.
Les patrons de Samsung Electronics et de ses filiales ont tenu une réunion d'urgence en début de semaine afin de discuter des mesures de protection contre les menaces relatives à une réglementation plus stricte des exportations japonaises. Le plus grand fabricant de puces et de smartphones au monde a sécurisé des stocks de matériaux essentiels à la fabrication de puces et d'écrans ces dernières semaines et demandé à ses partenaires locaux de faire de même pour pallier une possible pénurie. Le géant sud-coréen de la technologie envisage également de faire appel à de nouveaux fournisseurs, chinois ou taïwanais, et teste des matériaux non japonais dans le but de diversifier sa chaîne d'approvisionnement. Des restrictions à l'exportation prolongée pourraient entraver le plan de Samsung d'étendre son activité de fonderie, basée sur des processus de pointe de fabrication de puces et de production de smartphones pliables, qui utilisent des sociétés chimiques japonaises. D'après DRAM Exchange, une firme spécialisée dans l'analyse du marché des semi-conducteurs, les conséquences sur le terrain des restrictions du Japon contre les exportations vers la Corée du Sud devraient commencer à se faire sentir dans les deux prochains mois.
Louis Palidjano. C'est la première major de l'industrie de la musique devant Sony et devant Warner. Universal, détenu par le groupe français Vivendi, dirigé par Vincent Bolloré, devrait céder 10% de son capital au chinois Tencent. Universal qui est en pleine santé, la filiale a su dépasser le déclin des ventes de disques et profite actuellement de l'engouement pour l'abonnement et le streaming. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Anne.
Vivendi veut céder une partie de son fleuron car le marché des plateformes d'écoute est tout simplement en pleine croissance.
Oui, Vivendi a publié il y a quelques jours ses résultats financiers et ils sont excellents, surtout pour Universal. Universal Music Group représente à lui seul près de la moitié des 14 milliards de chiffres d'affaires réalisés par Vivendi. C'est dire qu'aujourd'hui, la filiale vaut plus cher que la maison mère. Une pépite en pleine croissance, car si l'on n'achète plus de disques, en revanche, l'usage des plateformes de streaming musical, en effet, a explosé. Et les chiffres le confirment. Le résultat opérationnel d'Universal est en progression de 44%. Bolloré peut donc vendre au prix fort et l'offre porte pour le moment sur 3 milliards d'euros.
Et que va apporter le chinois Tencent ?
Eh bien, pas moins que l'ouverture du marché chinois et plus largement le marché asiatique en plein essor. Car malgré ses bons résultats, Universal ne tire ses revenus que d'une dizaine de pays. Alors Tencent porte la promesse d'une belle croissance et de la vie générale, le chinois a en tout cas le profil du parfait partenaire. Tencent est un mastodonte dans les jeux vidéo sur mobile. Il possède également la messagerie WeChat, omniprésente en Chine, un système de paiement en ligne. Il a son propre service de streaming musical. Actionnaire de Spotify, il cumule les portails d'information, les solutions de communication. Bref, il dispose de tous les outils de diffusion, les tuyaux quoi, des tuyaux que va pouvoir utiliser Universal pour diffuser ses contenus, comme son prestigieux catalogue Rihanna, Ariana Grande, Taylor Swift ou encore les Beatles ou les Rolling Stones, les valeurs sûres.
Merci Annabelle pour vos précisions. À Signes, dans le Var, un hommage sera rendu demain au maire Jean-Michel, tué lundi sur un chemin privé de sa commune. Une information judiciaire a été ouverte aujourd'hui pour homicide involontaire. Le maire a été renversé par le fourgon de deux employés de travaux publics après leur avoir dit de ne pas déposer de gravats à cet endroit. Seul le chauffeur du véhicule a été déféré au TGI de Toulon après sa garde à vue. Il sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction. Nicolas Ballu, bonjour.
Bonjour Anne.
À quelques mois des élections municipales, le Sénat a proposé hier une grande consultation sur les maires, sur les menaces et les agressions auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur mandat.
Oui, un questionnaire est en cours d'élaboration. Il sera envoyé par courrier dès le début de la semaine prochaine via l'Association des maires de France. Une consultation en ligne est également proposée. Le Sénat veut demander aux maires de recenser les propos menaçants, les incivilités, les refus d'obéissance, les atteintes physiques. Le Sénat a réagi vite. La commission des lois veut pouvoir formuler des recommandations vers le mois d'octobre. C'est à ce moment-là que sera examinée la loi sur les conditions d'exercice du mandat d'élu, la loi engagement et proximité. Il est trop tôt pour dire si la démarche sénatoriale accouchera de propositions législatives ou de simples actions de sensibilisation, assure Philippe Bas. Mais pour le président de la commission des lois, il est essentiel d'envoyer rapidement des signaux aux maires.
C'est important. Parce que les maires ont déjà beaucoup de soucis avec les normes, avec les questions financières, avec les restructurations issues de la loi NOTRe, des communautés d'agglomération, des communautés de communes. Et il faut, je crois, qu'on les rassure sur les conditions d'exercice de cette fonction qui est essentielle.
Le questionnaire doit permettre de mesurer également si la sécurité et les incivilités sont un frein à l'engagement en politique locale. Question essentielle à quelques mois des élections municipales et essentielle pour le Sénat, parce que s'emparer de cette question, c'est aussi montrer une nouvelle fois qu'il est le représentant de la France des collectivités locales. Les maires ont donc jusqu'au 15 septembre pour envoyer leur réponse. Le Sénat procédera à des auditions dans la foulée.
Les explications de Nicolas Balu, merci. Le temps restera orageux cet après-midi sur une grande partie du pays. La vigilance orange a néanmoins été levée par Météo France. Le soleil restera dominant sur la façade ouest, au sud-est et en Corse. Et les températures, 19 à Brest, 20 à Paris, 21 à Lille et Strasbourg, 22 à Lyon, 29 à Marseille et jusqu'à 30 degrés à Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Benjamin Ducy.